Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Bonjour à tous. Transmettre la foi, transmettre les valeurs, faire en sorte que nos églises aient un avenir, c'est un des défis de nos mouvements. Pour en parler, j'ai avec moi Hélène Garel. Bonjour Hélène.
Bonjour Yolande.
Alors, qui a été monitrice d'école biblique, qui a été monitrice de catéchisme et qui a mis en place une expérience dont elle nous parlera plus tard, tout à l'heure. Là, on va d'abord voir ce qui l'a intéressé au niveau des enfants, des jeunes. Alors, votre parcours d'institutrice, je suppose.
Oui, mais c'est vrai que j'ai travaillé toute ma vie avec des enfants comme maîtresse d'école, comme instit, prof d'école, on dit maintenant.
Ça mais fait dans...
Oui, c'est ça, c'est le titre. Mais dans un cadre laïque, donc absolument pas question de parler de ma foi. Ça, c'était secret.
Bien sûr. Et la foi, donc, vous l'avez depuis toujours, depuis une famille protestante
Et oui, une famille protestante. Et c'est vrai que, pourtant, pour moi, ce qui était essentiel, c'était de penser que non, la foi, je ne l'ai pas depuis toujours. J'ai depuis toujours eu cet héritage qui m'a été transmis. Mais la foi, pour moi, ce qui était essentiel, c'est que c'était avant tout une rencontre. Une rencontre personnelle avec le Seigneur, ou peut-être un moment clé de la vie où le Saint-Esprit vient mettre le feu aux poudres et où tout prend sens, où tout s'allume, où tout s'éclaire, et où tout ce qui a été transmis par la famille, et qui ne sont que des valeurs, prenne vie et où ça devient de la foi. Jusqu'à présent, c'était des valeurs, et à un jour, ça devient de la foi.
Voilà, ben, vous avez répondu par avance à la question que je voulais poser. Donc, l'héritage, vous parlez de l'héritage. Qu'est-ce que c'est que l'héritage? Donc, c'est plutôt des valeurs, mais c'est aussi un enseignement, c'est aussi toute une façon de lire la Bible, non? Tout ce que vous avez reçu de votre...
Est-ce que c'est une façon... Je ne lisais pas la Bible avec mes parents, mais mes
parents... Vous avez été à l'école biblique.
Voilà, m'avaient inscrit à l'école biblique, ils allaient au culte, nous allions parfois au culte ensemble. Et puis je me rappelle quand maman attendait mon petit frère, là ça avait été un moment important dans ma vie d'enfant, parce que nous avions eu des moments de prière pour avoir un beau bébé dans la famille.
D'accord. Ça, c'est la prière de demande, mais en même temps, c'est une prière de confiance.
C'était une prière d'enfant.
Ouais. Et donc, cette rencontre, vous l'avez eue, vous l'avez trouvée et vous avez eu envie de la transmettre. La rencontre, vous l'avez...
Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, parce que pour moi, ma rencontre avec le Christ, c'est une rencontre... J'étais jeune adulte, Et après, j'ai eu des années très fâchées contre l'Église, où je trouvais que les pasteurs étaient de sacrés machos qui parlaient trop, plein d'orgueil.
Et on ne cite personne, hein, là.
Non, je ne cite personne.
Mais il y en a, ça va venir des auditeurs, de certains auditeurs.
Les pasteurs de l'époque. Voilà, c'était
aucune ressemblance avec des personnages, comme on dit.
Il a existé. Non, les pasteurs de l'époque, ils se prenaient tellement au sérieux.
Ouais.
Ils avaient la parole. Voilà, ce qu'ils savaient, et puis c'était des paroles pleines d'orgueil, ils s'écoutaient parler, et ça m'irritait profondément, vraiment.
D'accord.
Profondément. Et je trouvais que la rencontre avec le Christ, ça ne passait pas forcément par l'Église.
Oui.
Et il y a donc eu des années comme ça où j'étais plutôt fâchée, et où donc j'ai vécu ma vie d'instit qui ne parle pas de sa foi, jusqu'à ce que je réalise qu'en fait... Eh bien, dans le monde dans lequel je commençais à vivre ma vie, on ne connaissait plus tout ce qui, pour moi, me paraissait évident. C'était comme perdu. Et autour de moi, par exemple, mes collègues, mes copains, mes amis, parlaient d'un minimum de culture biblique, c'était inexistant, en fait. Et en plus, ça n'intéressait personne. Je me disais, mais c'est fou ça, mais il n'y a personne pour en parler ou pour transmettre. Moi, à l'école, je ne peux pas en parler, comment faire? Et là, a commencé pour moi à se poser la question de la transmission. Et dans un même temps, j'ai aussi rencontré des pasteurs que je trouvais bigrement intéressants.
Ah.
Qui se prenaient moins au sérieux, qui savaient écouter et qui avaient une vraie posture d'humilité.
Donc, vous avez cité trois concepts, si on peut dire, l'héritage, la rencontre et la posture. La posture, c'est-à-dire l'accueil de l'autre, l'attitude vis-à-vis de l'autre, c'est un peu ça?
Oui, on peut dire ça, une certaine cohérence entre ce que l'on dit, ce que l'on professe, la confession de foi, et ce que l'on est. Ouais. Une adéquation entre ce que la personne est profondément et ce qu'elle dit. Si c'est pour confesser l'humilité du Christ et être bouffi d'orgueil, c'est un truc qui cloche.
C'est certain, voilà. Oui. Non, et alors, c'est tout ça, donc c'est ces trois choses que vous voulez, que vous avez réfléchi, comment transmettre, ou est-ce que c'est plus particulièrement le côté rencontre
Ça s'est fait un peu comme ça, il y a des occasions de la vie, donc j'ai rencontré des pasteurs avec qui m'ont vraiment intéressé, avec qui... On a vraiment noué des relations d'amitié profondes, puis qui m'ont nourri. Et puis à un certain moment, du coup, je suis revenue sur une vie d'église que j'avais interrompue pendant longtemps. Et dans cette vie d'église-là, mais il s'est trouvé un moment où le pasteur est parti de la paroisse, laissant vacante la place auprès des enfants. Et on s'est posé la question, mais du coup, tiens, qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants? Ils vont peut-être aller de la paroisse ailleurs. On s'est dit, quand même, c'est dommage, s'il n'y a plus les enfants dans la paroisse, c'est dommage. Il y a toute une dynamique qui va se perdre. Et donc, avec quelques-unes, on s'est dit, ben non, mais même s'il n'y a pas de pasteur, on peut le reprendre nous. Donc c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier.
Une initiative que vous avez eue avec quelques autres personnes. On ne vous a pas demandé de le faire, mais vous avez proposé de le faire.
Patatrac, les papiers qui tombent.
C'est pas grave, ça, c'est pas grave. Alors,
Disons que il y avait un pasteur accompagnant qui n'était plus le pasteur de la paroisse, mais qui nous accompagnait et qui nous a dit qu'effectivement, ça pourrait être bien si on le faisait. Voilà, donc on s'est retrouvé avec, on va dire, un pasteur en tutorat, et puis deux, trois, voilà.
Et alors, comment vous avez réussi à, mettre en cheville votre désir de transmission, ce que vous voulez transmettre et les programmes qu'on trouve pour quand on fait l'école biblique, c'est-à-dire la Bible.
Il n'y a plus de programme, Yolande.
Il n'y a plus de programme ?
Non, plus de programme.
D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on étudie alors
On transmet justement. Oui. On choisit, on pourrait dire, des thèmes par année, et puis ça peut être autour des paraboles, ça peut être autour des animaux, autour des émotions, ce qu'on veut. Et donc on choisit un thème, et l'idée, c'est vrai, c'est de partager un élan de foi, de partager une connaissance de la Bible. Mais en fait, c'est plus de partager un savoir, comme quand nous, on était gosses, où il fallait apprendre des trucs. Là, la pédagogie a changé aujourd'hui, et c'est vrai qu'avec les enfants, on va chercher à transmettre un vécu, à transmettre un désir. Moi, je trouvais important avec eux de les amener à prier, de les amener à questionner le texte biblique aussi.
Et vous n'avez pas peur que le savoir se perde, que la connaissance biblique ne soit plus là?
Mais à la limite, le savoir et la connaissance, ils auront toujours les bouquins, ils pourront toujours y revenir. Ouais. Alors que le désir et puis le vécu d'église, ça, c'est essentiel. Si dans leur vie, ils ont goûté à des moments de fraternité, des moments... ils ne le trouveront nulle part dans les bouquins ni sur Internet.
C'est vrai.
La chaleur de l'église, enfin, ce côté... une autre famille, l'idée de famille spirituelle.
Donc il y avait une relation aussi entre le catéchisme, l'école biblique et la paroisse.
Oui.
C'était pas séparé comme des fois.
Non, c'était pas séparé. Notamment, il y a toujours, puisque je continue en fait ce truc-là.
Oui, oui. Je sais pas pourquoi je parle au passé d'ailleurs, vous n'êtes pas très vieille. Hein, donc.
Il y a toujours dans deux moments dans l'année qui sont forts. Il y a un week-end que nous faisons, un week-end intergénérationnel où les enfants sont invités. Ben, toute la paroisse, on part souvent à la Bécède, mais ça a été à Saint-André.
À quoi
La Bécède.
C'est quoi ça?
C'est un, un lieu de colonie de vacances en Lozère. C'est un lieu. Et donc c'est un moment fort de, de vécu ensemble. On passe le week-end ensemble avec les familles. Et puis ça va du plus petit jusqu'au plus âgé. Et puis l'autre moment fort aussi, c'est quand on prépare un petit spectacle pour Noël.
D'accord.
Et où, voilà, ça, c'est très festif, mais mettre les enfants sur scène, ils donnent d'eux-mêmes, en fait. Il faut qu'ils montrent quelque chose de ce qu'ils ont reçu. Et dans cette transmission, c'est à la fois très joyeux et très festif. Et j'aime beaucoup les conduire là-dedans.
Et est-ce qu'il y a une rupture entre la transmission de l'héritage que vous avez reçu et de celle que vous donnez ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir modifié quelque chose ou est-ce que c'est simplement le fait qu'on est dans une autre période qui a changé les choses ?
Ah, mais c'est sûr que, en fait, pour moi, la différence, c'est essentiellement au niveau familial. Tout dépend de ces enfants-là, ce qu'ils vivent dans leur famille. Parce que je trouve que le lieu de transmission essentiel de la parole, c'est la famille.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit dans le Premier Testament.
Ouais.
Et j'en prends conscience maintenant à quel point chez les Juifs, ils ne sont pas prosélytes du tout, les Juifs.
Oui, je sais.
Parce qu'en fait, chez les Juifs, pour eux, ce qui leur est demandé, c'est de transmettre, tu diras à tes fils et aux enfants de tes enfants. Et de génération en génération, tu transmets dans ta famille. Et ça, donc, tout dépend de ce que les enfants vivent. Il y a des familles, des enfants que nous accueillons dans l'église, dans lesquelles ça se vit. Il y a des enfants qui prient encore avec leur papa, leur maman, et puis il n'y en a pas du tout. Les parents, l'école, comme ça, et puis...
Et c'est pour ça que vous leur offrez une famille spirituelle pour...
Enfin, nous, on leur offre, je ne sais pas, mais on tente de vivre des moments comme ça avec eux.
Le prennent, je suppose.
Oui. Donc ça, c'est une des différences essentielles, oui, je trouve, de ce qui a changé aujourd'hui. Et d'ailleurs, que je n'ai pas forcément... je n'ai pas forcément su le faire dans ma propre famille. Combien d'entre nous avons su transmettre à nos enfants ou aux enfants de nos enfants? C'est quelque chose qui se questionne, en fait. En tout cas, ça fait partie des choses qui me tiennent à cœur. Tellement que avec mes petits-enfants, je me suis dit que avec mon mari, nous allions essayer de continuer ce petit maillage-là. Et nous avons vécu une belle expérience pour cela en leur proposant une retraite à Thésée aux enfants.
Ouais.
Figurez-vous que la communauté de Thésée organise des sessions durant tout l'été, des sessions famille, qui sont à côté donc, du lieu de la communautaire de Thésée, donc c'est pas tout à fait dans le cœur de Thésée, mais le petit village à côté, et donc ils accueillent les enfants avec leurs parents et pendant une semaine.
Et alors, qu'est-ce qui se passe là?
Eh bien, le matin, autour d'un petit spectacle de mise en scène d'un texte biblique, après des questions que les familles partagent, parents-enfants, et l'après-midi, après des temps de jeu, les enfants d'un côté et les parents de l'autre, qui se questionnent aussi sur ce qui se vit. Et ce qui est très fort, en fait, c'est que ce temps-là, entre guillemets, de catéchisme, est vécu avec la famille.
Si
vous voulez, ce que je trouve intéressant, c'est de ne pas séparer, confier à l'Église l'enseignement des enfants en l'enlevant aux parents.
Alors ça, c'est amusant parce que j'ai eu récemment deux interviews avec deux personnes qui trouvaient au contraire que le catéchisme, il ne devait pas y avoir les parents. Que ça devait être l'église ou des moniteurs, enfin bon, mais que les parents ne devaient pas intervenir. Et vous avez l'opinion contraire en vous basant sur finalement le Premier Testament, sur cette façon dont avaient les Juifs de transmettre la chose. Et est-ce que vous l'avez théorisé comme ça, c'est-à-dire est-ce que chez vous c'est quelque chose de construit, ou alors est-ce que c'est par l'expérience que vous avez senti ce besoin de mettre les parents avec les enfants.
De tempérament, moi je ne théorise rien. Je vis.
C'est bien ça.
Je vis. Alors après, est-ce qu'on peut le théoriser? Disons que dans le Nouveau Testament, le Christ, lui, sort la transmission de la famille et il élargit au monde.
Ouais.
Et ce qui fait qu'on dit que les chrétiens sont des prosélytes alors que les juifs ne le sont pas, mais ce prosélytisme qui est un visage assez négatif et assez désagréable du christianisme, ce n'est qu'une ouverture en fait. Et il faudrait qu'on puisse ne le vivre que comme une ouverture. Donc,
parce qu'on pourrait dire que le Christ remplace la famille par l'Église. Enfin, il ne parle pas d'Église, hein, lui.
Oui.
Mais il parle effectivement de presque d'humanité.
Enfin, c'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Il y a cet élargissement et il a des mots durs quand même pour la famille souvent.
Oui. Je suis tout à fait d'accord. Mais de notre côté, je trouve que l'enfant enracine son être,
ouais,
dans son vécu familial. Et que si ce n'est pas vécu en cohérence avec son milieu familial, il y a quelque chose qui pêche. Après, c'est différent à l'adolescence et à l'âge adulte.
D'accord.
Après, on peut offrir à un ado des camps indépendants, c'est pas pareil. Mais je trouve que l'enfant jeune, mettons jusqu'à 10-11 ans, c'est plus confortable pour lui si ce qu'il vit est en cohérence avec son milieu.
Oui, avec son milieu. Et les familles, comment elles réagissent? Elles sont d'accord pour participer?
Alors, là, dans ce que nous avions vécu à Thésée, forcément,
bah parce
que j'étais venue, c'était leur... Mais dans ce que nous vivons, nous, dans notre paroisse, ça ne se fait pas du tout.
Oui.
C'est pas ça.
Ah, ouais.
Et comme je vous disais, il y a dans les enfants que nous accueillons, il y en a certains qui le vivent au sein d'une famille,
oui,
chrétienne, pratiquante, qui viennent. Ouais. Et je dois dire, c'est le plus souvent, ce sont des familles pas forcément d'origine française. Il y a plusieurs familles d'origine malgache, comme ce qui vivent donc comme ça. Alors que les familles que nous avons peu d'enfants déjà.
Oui,
nous avons peu d'enfants. Et ça fait partie d'ailleurs des autres questions qu'on peut évoquer.
On va en parler.
Ce que j'allais dire, c'est que les familles plus d'origine française, par contre, les parents ne le partagent pas avec leurs enfants,
ouais,
du tout.
Ouais.
Parce que
vos parents ne le partageaient pas vraiment à votre génération. Ils vous envoyaient... Enfin, moi, j'ai beaucoup... Vous, je ne sais pas, mais j'ai beaucoup de témoignages où on m'a dit, ah ben moi j'allais à l'école biblique parce que mes parents m'y envoyaient, ou à la messe s'il s'agissait de catholiques, mmh, qui sont devenus protestants après, mais mes parents n'y mettaient pas les pieds. Donc,
oui, alors que moi c'était différent,
oui,
parce que je voyais mes parents lire la Bible tous les soirs et mes parents aller au culte tous les dimanches. Et ils étaient dans une vraie pratique, enfin une vraie cohérence, on
D'accord.
va dire. Donc c'était pas le cas. Ouais, non, c'était pas le cas.
Et alors, qu'est-ce que vous avez? Donc, il y a l'école biblique catéchisme pour les enfants. Et puis, donc, vous constatez qu'il y a moins d'enfants. Donc, il faut modifier aussi la transmission. Parce que si ça ne se fait pas au niveau des enfants, il faut le faire ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place, alors?
Oui, alors, déjà, pour en finir avec la question des enfants et cette problématique, on va dire, du manque d'enfants dans nos églises, puisque je crois que il n'y a pas que à Nîmes, qu'il y a peu d'enfants
que
c'est un peu général, cette problématique. C'est là que je pense que proposer un autre rythme, qu'un rythme, alors moi quand j'étais gosse, c'était une fois par semaine, c'était l'école du jeudi à l'époque. Maintenant c'est une fois par mois, mais je pense que peut-être proposer sous forme de... Bon, moi, à Thésée, c'est une fois par une semaine dans l'année. Ça peut être aussi à d'autres moments de vacances. Mais inclure, il me semble, les parents, parce que ça ne veut pas dire, parce que les parents ne viennent plus au culte ou n'ont plus de pratique d'église, qu'ils ne se posent pas des questions. Et les accompagner dans une réflexion éducative et spirituelle, là où ils en sont, de leur propre spiritualité, de leur propre questionnement, c'est pas inintéressant. Et qu'ils se confrontent entre eux, il me semble, alors, mais je ne connais pas dans mon église, enfin notre église protestante unie, à ma connaissance, il n'y a pas de lieu où ça se fasse. Enfin, j'ai un peu cherché, je n'ai pas trouvé. Hormis athésée, je n'ai pas trouvé. Mais peut-être qu'il y en a dans les églises évangéliques. Ce n'est pas mon rayon, donc je n'ai pas, j'ai pas cherché. Il me semble que proposer ça à des parents, ça pourrait être intéressant.
Oui, certainement. Voilà. Certainement, vous n'avez pas encore mis en pratique, mais c'est une idée qui...
Mais c'est quelque chose que je trouverais intéressant à creuser.
D'accord.
Voilà. Alors, par contre, donc du coup, ça, c'est la transmission auprès des enfants. Par contre, je me suis en même temps questionnée en me disant, mais tiens, tant d'adultes autour de moi, je vois, n'ont aucun bagage, n'ont aucune clé pour rentrer dans ce monde-là. Comment faire pour pouvoir en parler alors que notre monde est tellement laïque que ça paraît presque un sujet tabou?
Oui, tout complètement.
Aujourd'hui, de parler, alors que tout, on peut parler de plein de choses, on peut parler de sexe, on peut parler d'argent, on peut parler d'un tas de choses, mais parler de religion dans une société laïque, on ne peut pas.
Donc vous avez mis quelque chose en place.
Ben, il m'a semblé que un des freins à parler de sa foi, c'était la religion et c'était les lieux d'église. Il me semble que l'église, en tant qu'institution, freine et bloque l'échange et l'ouverture. Alors je me suis dit que peut-être si on proposait un lieu neutre, ça serait plus facile. Donc avec la pasteur de notre paroisse, qui était d'accord pour me suivre, le conseil de paroisse, quand j'ai proposé ça au conseil, il m'a dit bah, ça paraissait un peu uluberlu, un peu une lubie, tu n'arriveras pas, ça n'intéressera personne, tu ne trouveras pas d'endroit.
On ne vous a pas empêché.
Voilà, mais ils m'ont dit, bon, tu vas te casser la figure, c'est pas grave.
Oui.
La pasteur m'a dit, écoute, vas-y, je te suis. Donc
d'accord.
C'était très sympa, donc on a cherché toutes les deux un lieu, on a trouvé un petit bar dans Nîmes, qui avait une salle au-dessus de la salle du bar qu'ils ont bien voulu mettre à notre disposition. Très sympa, des propriétaires qui étaient des gens assez simples, mais très accueillants. Et donc, on a proposé une fois par mois une rencontre pour parler de spiritualité, mais à des gens qui n'étaient pas des gens de l'église.
Et donc cette expérience, vous l'avez appelée comment ?
Nous l'avons appelée Speak Café, avec speak comme parole en anglais, mais un café pour parler de spiritualité.
Donc, d'accord. Un café.
Alors, speak.
On va parler de ce café qui veut parler de spiritualité,
oui.
Mais auparavant, on fait une pause musicale et on se retrouve ensuite.
Broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. The rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet pass. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day.
as broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world.
Alors on se retrouve avec Hélène pour parler de la transmission. On a parlé donc au niveau des enfants et puis Hélène a fait ce constat que les parents n'étant pas toujours à l'aise dans le milieu protestant, dans le milieu traditionnel de l'Église, eh bien il fallait trouver autre chose et a mis en place le Speak Café dont elle va nous parler maintenant. Alors Hélène, donc ce café, donc les gens se réunissent dans une salle de café, prennent un café, et vous parlez de quoi ?
Alors, je crois que la première rencontre, nous avons dû parler de la question « qu'est-ce que c'est que la spiritualité pour moi ?» un truc comme ça.
D'accord.
On a commencé par le sujet, c'était ça. On allait parler de spiritualité. L'idée, c'était de... Alors, ce qui était quand même difficile, c'était de pouvoir s'adresser à des personnes qui n'allaient pas à l'église et qui venaient de tous bords.
D'abord, combien étaient là ?
Alors, c'était une des difficultés. La difficulté, c'était de se faire connaître et de toucher les personnes, de donner envie, en fait.
Ouais.
Donc, on était une petite dizaine, des fois un peu plus, des fois
D'accord.
un peu moins.
D'accord. Et alors, donc, votre premier thème, la spiritualité, les gens ont témoigné, ont osé parler, ça...
L'idée importante, c'était qu'on puisse s'écouter. Alors, je proposais chaque fois un petit moment d'introduction, une petite introduction pour lancer le sujet de quelques minutes. Il y en avait un, c'était souvent mon mari qui prenait des notes. Comme ça, après, je pouvais les renvoyer au groupe.
Ouais.
Pour avoir une petite trace des échanges. Et l'idée importante, c'était que de recevoir la parole de chacun sans le couper et sans que ça fasse débat.
D'accord.
C'est-à-dire que la parole de l'un pouvait susciter en moi un écho. J'allais parler en jeu, en mon nom, en essayant de sortir des grandes théories fumeuses, de parler vraiment de moi. Ce que je vis, de ce que moi je pense.
Vous ne vouliez pas que les autres donnent leur opinion sur ce qu'avait dit le précédent, si j'ai bien compris.
Voilà, c'était pas faire débat.
Qu'après,
du débat, on glisse vite vers le combat.
C'est ça, je suis
tu
d'accord.
Tu as raison,
je suis pas
voilà.
D'accord.
Et du coup, une majorité peut être pour l'un et puis d'autres. Voilà, donc ça, on
et
voulait pas.
Et vous aviez trouvé ça où, cette idée justement de...
Ben ça, c'était une pratique d'école. J'étais la maîtresse.
D'accord. Parce que moi, je connaissais communication non violente, mais j'ai jamais vu ça.
À l'école, ce qu'on appelait les débats réglés, je faisais dans ma classe des moments philo, dans ma classe, et c'était beaucoup sur ces règles-là.
D'accord, donc on s'écoute et on ne renchérit pas. Mais les gens qui venaient, c'était pas les paroissiens quand même, c'était pas les gens proches de l'église.
Alors ça fait partie des difficultés.
Oui.
Alors j'avais... Dans la communication, moi, ma difficulté avec ce projet, ça a été justement la communication pour moi.
Ouais.
Ce qui fait qu'au bout de... Après le Covid, ben, je l'ai arrêté, donc ça a duré 3 ans. Au bout de 3 ans, je l'ai arrêté parce que il aurait fallu que l'Église s'en saisisse. J'étais allée interpeller mon Église en disant écoutez, ça peut prendre. J'ai trouvé un terrain pour le vivre, pour l'expérimenter. L'idée peut prendre pourvu que vous m'aidiez. Et pour m'aider, ben, il faudrait que vous puissiez inviter autour de vous des personnes qui seraient en recherche, en question, mais qui ne sont pas du sérail.
Bah oui.
Parce que sinon, eux, ils ont les cultes, les études bibliques, de choses pour creuser.
C'était pas le but.
C'était pas le but.
Non.
Le but, c'était de rencontrer des gens qui se posent des questions.
Ouais.
Mais ma formule, c'était des personnes qui ne pousseraient jamais la porte d'une église ou d'un temple.
Oui, oui.
Ce sont ces personnes-là que j'aimerais rencontrer. Ouais.
Et alors l'église, qu'est-ce qu'elle vous a répondu ?
Et l'église, ben d'accord, mais personne n'est venu comme ça.
j'allais presque le dire.
Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont, je pense, été peut-être un peu froissés de ne pas pouvoir venir eux, que ce ne soit pas pour eux en fait.
Ouais.
Et je leur dis, mais vous pouvez venir, mais pourvu que vous veniez avec quelqu'un d'autre,
oui, oui.
Amener un copain, un voisin, voilà.
Ouais.
Mais ça s'est pas beaucoup fait. Et du coup, pour moi, c'était un peu fatigant d'aller de gérer ça, de cette communication, quoi.
C'est pour ça que vous avez demandé, donc effectivement, que l'Église gère la.
Ben, j'ai fait le tour des conseils de paroisse de Nîmes pour expliquer la démarche. Pas que dans ma paroisse, et en me disant, mais écoutez, prenez le relais, quoi, invitez, parce que moi, j'ai pas. Alors, je faisais passer dans la gazette du coin, sur la radio, une journaliste jouait le jeu, c'était adorable, journalistes, mais c'est pas le plus facile. Souvent, c'est par le bouche à oreille. Moi-même, j'avais la chance d'avoir quelques copains, copines, mais après, une fois qu'on a épuisé son propre gardien d'adresse, ça tourne. Voilà.
Bon. Et donc l'expérience s'est arrêtée ?
Ben, au bout d'un moment, après le Covid, je n'ai pas eu envie de. J'aurais eu envie qu'il y ait une équipe avec moi.
Ouais.
Et en voyant que la mayonnaise ne prenait pas dans l'église, je suis passée à d'autres projets personnels, j'ai fait autre chose de ma vie.
D'accord.
Mais c'est vrai que la pasteur qui m'a accompagnée là-dedans, depuis, me dit, écoute, tu veux pas qu'on recommence, c'était quand même trop bien. Et elle cherche à repartir sur une expérience de Spi Café. Et je dois dire que depuis, ben, j'ai fait quand même, ça m'a permis de belles rencontres d'amitié.
Et alors, à l'heure actuelle, donc, ça n'a pas été repris, le projet n'est pas repris, même si la pasteur voudrait le reprendre.
Oui, il n'est pas repris à l'heure actuelle. Il y a d'autres pasteurs qui m'ont dit, s'en être inspiré à droite et à gauche, m'ont dit, tiens, on fait ça, tu te rappelles, c'est comme ton Spi Café, on fait ça chez nous. Donc j'ai eu des échos comme ça, mais sur Nîmes, non, ça n'est pas repris.
Parce que moi, j'en ai entendu parler d'expériences de ce genre.
Oui.
Donc effectivement, ça se fait, mais il n'y a pas de coordination non plus au niveau national, au niveau de l'EPUDF.
Pas à ma connaissance. Non.
D'accord.
À ma connaissance, on pourrait effectivement avoir des outils communs, ce serait intelligent.
Ça serait intelligent, oui. Vous n'avez jamais cherché à le proposer au niveau de la région, au niveau du conseil régional ?
Vous savez, dans l'église, quand on commence à donner ça, après on.
Tiens donc.
Bon, on va dire que j'y suis déjà pas mal dans l'église, alors non, j'ai pas cherché à plus.
D'accord. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, ce Spi Café ? Et est-ce que vous pensez que. Enfin, d'abord, une question à la fois. Qu'est-ce que ça vous a apporté ?
Alors, moi, déjà, durant le temps de Spi Café, j'étais très heureuse de pouvoir parler de ma foi à des gens qui, eux, n'étaient pas croyants et qui étaient en recherche, parce que je sentais ce qui était super pour moi, c'était de sentir la recherche authentique chez les personnes. Ils étaient sincèrement en question et pour moi, ça, c'est beau. C'est beau de voir des gens qui cherchent, des gens qui sont. Alors, beaucoup n'étaient pas d'accord avec nous, mais c'était pas grave.
Mais ils venaient. Vous les avez eus, vous les avez.
Oui, ils venaient, ils passaient, ou ils revenaient ou ils revenaient pas. Mais ça me faisait. C'était des rencontres humaines qui me faisaient chaud au cœur.
Donc, vous avez eu des non-croyants, vous avez eu des gens qui étaient en dehors de la paroisse, de l'église,
oui,
de l'UDF, qui venaient.
Oui, tout à fait.
Donc, l'expérience a été un succès. S'il y en a qu'un, eh ben, c'est toujours celui-là.
Voilà, si on se dit ça, oui, c'est ça. D'ailleurs, notre pasteur nous avait dit, parlant de l'expérience au conseil de paroisse, elle avait dit, avec Hélène, on ne fait pas ça du tout pour emmener des paroissiens. C'est pas ça le but. C'est juste pour parler. Et en fin de compte, si on fait le bilan, eh ben, il y en a deux ou trois qui pourtant sont arrivés dans la paroisse.
Ah ben alors c'est.
Eh oui, alors que ce n'était pas le but.
D'accord. Et qu'est-ce que ça a apporté à l'Église ? Est-ce que ça leur a permis d'avoir des débats là-dessus, sur comment. Parce qu'il y a la transmission, et moi j'appellerais ça aussi de l'évangélisation, tout simplement. C'est-à-dire que c'est une ouverture au monde, ce que vous avez fait. C'est montrer nos valeurs, montrer l'Évangile, montrer.
Oui.
Est-ce que l'Église en a pris conscience ou est-ce qu'il a vu. Est-ce que l'Église a vu seulement une expérience un peu fofolle
Oui, je crois que c'est plutôt les deux.
Tragique, je vois. L'autre réponse.
Disons que oui, ils reconnaissent que c'était pas mal, puisqu'il y en a deux ou trois qui sont venus et qu'il y en a au moins un qui cotise bien.
Ils se sont dit que ça valait le coup. Les auditeurs vont se dire bon.
Il faut être très franc.
Oui.
On n'est pas là pour se raconter des histoires.
D'accord. Et donc, globalement, alors maintenant, si on fait un récapitulatif de tout ce que vous avez vécu au niveau de la transmission, qu'est-ce que vous pouvez dire pour résumer tout ce schéma? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi, d'avoir échoué, de regretter quelque chose, d'avoir un message pour... Moi, j'aime bien les messages. Si ça se termine par un message, je suis ravie. Ah. Un message pour ceux qui écoutent...
Je vais essayer de faire plaisir à Yolande, alors. avoir réussi ou raté des choses, j'en ai sûr probablement réussi et probablement raté. Certainement, c'est pas ça. Moi, qui m'intéresse... Ce qui, moi, me tient à cœur, c'est que je trouve qu'à l'heure actuelle, il me paraît urgent qu'on sorte de notre pudeur et de notre timidité. Il me paraît urgent de prendre la parole, qu'on ose être enfin un peu audacieux et qu'on ose retrousser les manches et prendre la parole, quoi. Parce que je trouve que le message du Christ, le message de l'Évangile, notre monde en a terriblement besoin. Et que si on se tait et qu'on s'enferme dans nos petites églises en fermant les portes, c'est pas comme ça.
Mais tout à l'heure, vous aviez dit que le prosélytisme, enfin que vous n'aimiez pas trop cette notion de prosélytisme, mais finalement, si on remplace le mot prosélytisme par évangélisation, ça revient un peu au même, non ?
Mais pour moi, ni prosélytisme ni évangélisation, c'est juste dire qui on est et puis dire ce qui nous habite et ce qui nous anime, sans forcément... La différence peut-être dans les mots évangélisation et prosélytisme, c'est quand on va chercher à convaincre l'autre. C'est pas convaincre, c'est juste dire, mais voilà, moi je suis comme ça et il y a ça qui m'anime, c'est une super richesse. Tu sais, elle peut être pour toi, mais tu as fait ce que tu veux.
Donc voilà. Vous préférez le mot partage au mot prosélytisme ou au mot évangélisation même?
Oui, sans doute, oui. Enfin, oui, mais oui, juste prendre la parole, oui, et la partager, oui.
Eh bien, c'est sur cette notion de partage que nous allons clore cette émission. Alors, merci Hélène pour ce témoignage.
Écoute, merci Yolande.
Et puis, merci à nos auditeurs, à qui je dis à la semaine prochaine, comme d'habitude. N'oubliez pas de réagir à Un protestant peut en cacher un autre, @radiofmplus.org. À la semaine prochaine, au revoir.
Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounelle.